cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 21 janvier 86.
Nous avions essayé de partir de l'expérience que nous avons d'une activité politique, même si de fait nous ne sommes pas très engagés dans la politique. Nous pouvons quand même tous relever dans nos diverses activités certaines activités qui sont strictement politiques. Voter ou ne pas voter, c'est une activité politique. Dire « je ne vote pas », étant donné que je suis moine, alors je ne veux pas voter. Je ne veux pas voter, étant donné qu'aucun des candidats présentés n'est mon candidat. Tous claudiquent, d'une manière ou d'une autre. Ils ne sont pas à la mesure de ce que je considère être vraiment un candidat politique. Donc je ne vote pas. En faisant ça, vous posez un acte politique. Réfléchissez sur les dimensions de cette activité et vous pourrez, à partir de là, comprendre ce que représente le point de vue politique. C'est ça qui est très curieux, vous voyez, et qui est très intéressant. Il suffit d'une activité politique, une expérience politique pour pouvoir découvrir toutes les exigences d'une philosophie politique. Si votre regard est suffisamment pénétrant et si vous n'avez pas d'a priori, si vous avez des a priori en disant non, je ne sais rien du tout, vous reconnaissez que dans certains domaines vous n'avez pas d'expérience et en disant je vote pour tel candidat, je ne veux pas voter, vous posez un acte de prudence politique. Et cet acte de prudence politique est au cœur de tout ce que représente l'activité politique. Deuxièmement, nous avons tous vécu dans une famille. Nous avons tous vécu dans une famille. Est-ce que la famille est en dehors du point de vue politique? Est-ce que la famille peut-elle faire abstraction du point de vue politique? Même si nous n'avons vécu que comme enfants, que comme fils, nous avons quand même grandi à un moment donné, on a eu peut-être la dignité d'être citoyen. Libre, conscient et organisé. Donc, nous avions une dimension de citoyen politique. On ne l'a peut-être pas beaucoup utilisé, puisque si nous étions étudiants, les étudiants d'aujourd'hui ne s'occupent pas tellement, pas tous, hein, mais certains ne s'occupent pas beaucoup de politique, d'autres s'en occupent, c'est évident. S'engager dans un point de vue politique. Si nous avons été ouvriers, artisans, nous avons été beaucoup plus vite engagés dans un syndicat. Tous les vieux syndicalistes, nous avons été engagés dans un syndicat. Un syndicat est une activité politique. C'est bien évident. Ça fait partie d'une organisation politique. Donc, vous voyez, je fais appel à ça exprès pour que nous comprenions que notre réflexion repose sur une expérience. Et puis si nous avons des amis qui font de la politique, nous en avons tous. Peut-être même des amis qui auront des responsabilités demain politiques très importantes. C'est possible. Nous avons des amis. Alors, l'expérience de nos amis peuvent nous servir. C'est comme pour la philosophie de l'art. Le philosophe, s'il n'est pas artiste, c'est-à-dire s'il ne réalise pas d'œuvre artistique, doit au moins avoir des amis. Les amis permettent le prolongement de nos expériences. Une véritable amitié, ça permet le prolongement. C'est forcé. On ne peut pas avoir l'expérience de tout. Or, la philosophie repose sur l'expérience. Nos expériences et les expériences de nos amis. Alors, il faut avoir un certain sens des choses. Ce n'est pas nécessairement l'expérience absolue. Mais l'amitié aide beaucoup. Comme dans le domaine scientifique, au point de vue critique. Les amis aident. Mais quelquefois, c'est plus avantageux d'avoir l'expérience d'amis plus qualifiés que sa propre expérience qui n'est pas très qualifiée. On ne peut pas être qualifié en tous les domaines. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que dans un domaine, on est qualifié. C'est déjà pas mal. Si on a un domaine où on est qualitatif, c'est bien. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Je crois que si dans un domaine, on est qualifié, je dis ça pour notre propre expérience humaine, c'est déjà beaucoup. Alors, ayons des amis qui prolongent l'aspect qualitatif. Je crois que c'est plus important au point de vue de la philosophie que d'être un homme moyen en toutes choses. Parce qu'il fait une philosophie moyenne en toutes choses. Alors, on rejoint la science moyenne. C'est-à-dire, on rejoint quelque chose qui n'est jamais très caractéristique. Je crois qu'avoir des amis qui sont de vrais artistes est plus important que d'être un philistin dans le domaine artistique. C'est-à-dire de croire qu'on est artiste, mais tout le monde part derrière et dit « ça vaut rien du tout ». Et alors, à partir de là, oui, celui qui fait la poésie, ça ne va pas arriver. Certaines heures, on fait de la poésie. Et puis, tu veux, non, il se croit poète. Non, ce n'est pas de la vraie poésie. C'est très, très important, c'est ça que j'appelle être qualifié. C'est que dans un domaine, il y a vraiment quelque chose qui touche. Ce n'est pas être plébiscité par tout le monde. Non, plébiscite ne veut rien dire du tout. Mais c'est vraiment réaliser quelque chose qui qualitativement vaut. Alors, essayons de comprendre au plan philosophique ce qu'est la famille. Ça, nous en avons tous expérience. Puis nous avons tous des amis qui sont pères de famille, qui sont mères de famille. Nous avons tous des amis qui sont des enfants, des petits-enfants ou des grands-enfants. Nous avons tous saisi les difficultés d'une famille, les positions quelquefois extrêmement difficiles dans lesquelles on se trouve. On a tous compris que la famille, c'est à la fois quelque chose de simple, mais de très complexe. Et nous pouvons comprendre assez vite que la famille représente quelque chose de fondamental dans la perspective d'une philosophie politique, puisque la communauté humaine la plus naturelle, c'est l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. C'est le point de vue des parents et de leurs enfants. C'est la communauté la plus naturelle. Je crois que ce que dit Aristote là, mettre la référence à Aristote. Parce que ce qu'il dit sur la famille reste vrai. Je crois que ce que dit Aristote en disant que la famille, c'est la communauté la plus naturelle qui soit, demeure vrai. Je sais qu'aujourd'hui, il faut le défendre. Du temps d'Aristote, on n'avait pas besoin. Parce que les gens étaient plus intelligents et comprenaient mieux ce que représentaient les finalités naturelles. Tandis qu'aujourd'hui, il faut la défendre. Il faut défendre que la communauté familiale est la communauté naturelle par excellence et le fondement de toute la politique. Alors, je crois que c'est la première chose que nous devons essayer de comprendre dans l'ordre d'une philosophie politique. Nous avons deux grandes philosophies politiques sous nos yeux, qui doivent toujours rester un peu sous nos yeux, celle de Platon, celle d'Aristote. Platon fonde la politique sur l'individu. Aristote fonde la politique sur la famille. Ce qui est très curieux, c'est que ça rejoint encore aujourd'hui deux grandes perspectives philosophiques, deux grandes perspectives politiques, de philosophie politique. Fonder la politique sur la famille, fonder la politique sur l'individu. Faisons attention, hein. Quand je dis « fondons la politique sur la famille », n'excluons pas le célibataire. Ne disons pas « le célibataire, par définition, sera apolitique, ne sera pas un citoyen ». On pourrait inventer une politique comme ça, en disant « ce pauvre type, infécond, par le fait même, en dehors du point de vue politique. Je ne m'intéresse qu'à ceux qui font des petits. Parce qu'il n'y a que ça d'intéressant dans le point de vue famille, dans le point de vue politique. C'est la fécondité. Tandis que les autres, ce sont des parasites. Ce serait une certaine conception, hein. Je pousse la perspective aristotélicienne d'une façon systématique et non plus d'une façon analogique, je tombe dans une philosophie disciplinaire et non plus une philosophie réelle, j'aboutirai à ça. J'aboutirai à dire tous les célibataires apolitiques. La famille seule est à garder. Donc vous voyez, il y a un problème qui tout de suite est là, radical. Autre chose est de chercher le fondement de la famille. Autre chose est de chercher qu'est-ce que c'est que le citoyen. Le fondement de la famille, le fondement de la politique, c'est l'élément premier sur lequel il faut tout le temps revenir, qui est la source. Autre chose est de chercher qui est le citoyen. Le citoyen peut être légitimement quelqu'un qui n'est pas marié. Et président de la République peut être légitimement un célibataire. C'est sûr. Il n'y a pas d'inconvénient. C'est les citoyens. Alors, voyons bien, fonder la politique sur l'individu, c'est donc fonder sur les citoyens. Position de Platon. Position de certaines perspectives d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ce serait très intéressant de voir quelles sont les perspectives d'aujourd'hui qui fondent la politique uniquement sur l'individu. Vous voyez, c'est une espèce de confusion entre quelle différence y a-t-il entre la communauté politique, la famille et le citoyen? Quand je dis que la famille est fondement, citoyen, il est quoi? Il est un membre. Il est un élément du point de vue politique, de ce tout politique. Et c'est très curieux, si vous regardez attentivement au point de vue philosophique, ce que Aristote dit sur la famille et ce qu'il dit sur le citoyen. C'est d'autant plus intéressant de regarder les historiens qui regardent la formation de la politique d'Aristote. Ils disent que le livre premier sur la famille est un livre qui est venu normalement après. Ce sont des données historiques, hein, on ne sait jamais très bien. C'est intéressant de voir ça, c'est qu'au fond, Aristote aurait d'abord commencé par le point de vue du citoyen. Et si je fais du citoyen l'aspect de l'élément, si vous voulez, j'ai Platon. Confusion, la source et l'élément. Alors, Aristote ici. La famille intègre le citoyen. Le citoyen, s'il est pris comme source, et non plus seulement comme élément, d'une certaine manière, ne peut plus intégrer la famille. Platon n'intègre pas la famille. C'est très curieux. Aristote part de la famille et montre que le citoyen est un élément. La famille n'exclut pas le point de vue. La famille n'exclut pas le citoyen. Mais le citoyen, pris comme absolu, exclurait la famille. L'exclurait. Considérer que la famille, c'est per accidens. Plus une structure, c'est tout à fait occidentale. Ça, il faut réfléchir là-dessus. C'est intéressant, parce que ça ferait comprendre, au point de vue philosophique, deux grandes manières. Autre considération, ça revient toujours au même. Si je dis que la famille est le fondement, la source naturelle de toute communauté, la communauté commence par la famille. Je dois comprendre qu'avant l'éthique familiale, communautaire, politique, il y a une éthique personnelle. Si au contraire, je pars du citoyen comme étant la source de l'État, je ne peux plus distinguer l'éthique personnelle et l'éthique politique. Je fais la confusion des deux. Chez Platon. Vous voyez, il y a là tout un aspect qui me semble très important au point de vue philosophique à réfléchir. C'est très important de saisir le point de départ de la philosophie politique. À la différence du point de départ de la philosophie éthique. La philosophie éthique commence par l'homme. La philosophie politique commence par la communauté. Et la communauté ajoute une nouvelle dimension à l'homme qui fait qu'à partir de là, il y a des données philosophiques distinctes. Tandis que si je mets le même fondement pour l'éthique et la politique en regardant l'homme individuel, le citoyen. J'aurai la même éthique. Et par le fait même, l'éthique politique passera avant l'éthique personnelle. Platon. Et donc, c'est très important de réfléchir sur ce point. Je vous renvoie à Platon et Aristote parce que là, on est vraiment en face de deux philosophie typique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça n'a pas d'importance, mais on doit le connaître. Si on est un philosophe, on doit connaître Platon. Si on est un philosophe, on doit connaître Aristote. On n'a pas le droit de ne pas les connaître. Parce que c'est quand même les deux grandes philosophies politiques. Les autres viennent après, elles ont plus ou moins enracinées dans Platon et dans Aristote, mais là, je suis en face de sources. Deux grands philosophes de la politique, Platon et Aristote. Alors, pourquoi j'opte pour Aristote et non pas pour Platon? C'est que, justement, quand il s'agit d'un point de vue politique, je regarde le point de vue communautaire. Je sais que le point de vue communautaire m'engage, mais que ma propre personne humaine a une finalité personnelle qui n'est pas politique. Si j'ai fait l'expérience de l'amour d'amitié, si à partir de cet amour d'amitié, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que l'éthique personnelle, je peux immédiatement comprendre que mon engagement communautaire vient après et n'est pas premier. Je crois que ça, nous pouvons tous en faire l'expérience. Alors, évidemment, quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de l'amour d'amitié, donc, qui n'a pas compris ce que c'était que l'éthique personnelle, qui n'a qu'une éthique du devoir, à la manière de Kant, à la manière stoïcienne, aura beaucoup de peine de distinguer l'aspect éthique personnel et l'aspect politique. Parce que d'une certaine manière, c'est dans l'aspect communautaire où le devoir s'impose le plus. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup la communauté. Parce que dans la communauté, le devoir s'impose en grandes lettres. Vous devez vous lever à telle heure, vous devez vous coucher à telle heure, vous devez... Évidemment, ça c'est une communauté religieuse. L'État ne va pas jusque-là dans ces détails. Mais il y a d'autres détails très importants aussi. L'État impose des lois. Tout État. Toute communauté a un règlement de vie. Ce sont des lois. Les lois montrent ce que je dois faire. Et donc, au niveau de la morale du devoir, c'est pas comme du tout de distinguer le point de vue de l'éthique personnelle et l'éthique. Parce que d'une certaine manière, c'est bien du côté politique que le devoir est écrit en grandes lettres. Tandis que le devoir personnel est écrit en petites lettres. C'est ma propre conscience. J'ai cette conscience, le tout c'est de ne pas déranger mon voisin, mais sans aucune espèce d'importance, hein, qui ne s'occupe pas de moi. Ayez cette éthique personnelle, je fais ce que je veux, le tout c'est de ne pas déranger mon voisin. Et tout ce qui est communautaire, oh je suis là présent. Personne ne dira que je ne fais pas exactement la fonction que je dois faire. Au point de vue personnel, personne n'a besoin d'intervenir. Vous voyez, le devoir est écrit en grandes lettres dans l'éthique politique et en petites lettres pour l'éthique personnelle. Pour mon devoir personnel. C'est exactement ce que Platon dit au niveau de la justice. Et ça, c'est aussi très intéressant, puisque Kant a peut-être, à ce point de vue-là, vous voyez, mis en pleine lumière le point de vue de la morale du devoir. Et en mettant en pleine lumière la morale du devoir, on aboutit à ce que Hegel dit. Le point de vue de la Prusse représente l'état le plus parfait. C'est là où l'impérium est le plus parfait. Il y a une continuité entre les deux. Et nous sentons très bien que ça ne correspond pas au sens profond de notre responsabilité. Alors nous revenons à cette éthique personnelle qui ne peut se comprendre parfaitement qu'à partir de l'expérience de l'amour d'amitié. C'est cette expérience de l'amour d'amitié qui me fait comprendre ce qu'est mon éthique personnelle, distincte de l'éthique politique. Et je vois que l'éthique politique s'inscrit bien dans ma vie, et elle s'inscrit à un niveau qui n'est pas identique à ma propre personne. Ma personne a quelque chose qui va plus loin que le point de vue communautaire. Et je crois que ça, c'est très important pour tout de suite comprendre que je ne peux pas fonder l'éthique politique sur l'individu. Parce que l'individu est plus que la communauté politique. Et donc ça ne peut pas être le fondement, puisqu'il est plus. L'individu relativise la politique. Un individu qui est parfaitement individu, c'est-à-dire parfaitement homme, il relativise la communauté politique. La communauté politique va donc se fonder sur quoi ? Sur la première communauté qui existe. Or, la communauté la plus fondamentale, c'est bien la famille. Pourquoi ? Parce que la finalité de la famille, au niveau communautaire, c'est de permettre la survie de l'espèce. Alors, au niveau communautaire, la survie de l'espèce est quelque chose de capital. Pour que l'État puisse demeurer, pour que l'État puisse survivre, il faut que l'individu continue. La communauté familiale a donc un droit à l'existence qui est naturel et un droit à l'existence qui s'impose parce que c'est une amitié ordonnée qui implique la survie de l'espèce. Ça me semble très net. Je sais très bien qu'aujourd'hui, on pourrait dire, la survie de l'espèce pourra se faire autrement grâce à ce que représente le point de vue de la fécondation artificielle. On pourrait très bien concevoir un nouvel état où la survie de l'espèce est assurée par la fécondation artificielle. Il retrouverait Platon. Et c'est vrai, et ça arrivera. Si l'humanité continue de vivre comme ça arrivera. On arrivera à dire, mais oui, on n'a plus besoin du mariage. On n'a plus besoin de la famille. On a besoin d'avoir uniquement des banques de sperme avec qui on pourra, avec. C'est tout. Et puis à partir de là, l'État favorisera les diverses familles qui se formeront. Alors il y aura des familles qui impliqueront l'homme et la femme. Il y aura des familles qui seront uniquement la femme et l'État sera là, l'homme, pour défendre la femme. Et ce sera un mariage avec l'État, grâce à la fécondité artificielle. Et ce sera beaucoup plus parfait, parce que l'État est toujours de bonne humeur, tandis que l'homme n'est pas toujours de bonne humeur. On sera beaucoup plus libre, parce qu'on aura uniquement... Ce sera la libération parfaite de la mère, la libération parfaite de la femme. Et on aura donc des familles parfaitement libérées, dont l'État sera l'autorité. C'est très concevable, ça. On est tout proche de ça. Au point de vue philosophie politique, je dois y réfléchir. Parce qu'on va tout de suite vous tirailler ça quand vous dites la famille de droit naturel. Non, le droit naturel, complètement dépassé. Droit naturel, aujourd'hui, complètement dépassé. Ça, c'était bon pour l'ancien temps. Aujourd'hui, on arrive à voir que la procréation, que la survie de l'espèce peut se faire autrement. Puisque la survie de l'espèce peut se faire autrement et peut se faire proprement par une méthode artificielle, fécondation artificielle, je peux donc dire que la famille n'est plus de droit naturel. On va vous dire ça. C'est bien évident. C'est pas si commode que ça à répondre. Vous comprenez que ce qu'il faut répondre à ça, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est que le droit naturel. Et le droit naturel présuppose une conception de l'homme. Et donc présuppose une conception de la morale personnelle. Si vous n'avez pas de morale personnelle et une morale uniquement socialiste, socialisante, une morale uniquement communautaire, vous ne pouvez pas en sortir. Ah, il faut bien le comprendre. Il n'y a pas de raison d'en sortir. Puisqu'on ne regarde que l'efficacité. Et au point de vue de l'efficacité, ce sera peut-être beaucoup plus efficace. Je n'en sais rien, hein, je dis ça. Je fais l'avocat du diable ici. Ce sera peut-être beaucoup plus efficace. Parce que vous aurez le choix de pouvoir au moins ne choisir qu'une paternité particulièrement parfaite. C'est-à-dire qu'autrement, toutes les ratées qui existent au niveau aujourd'hui, c'est toujours le père. C'est quelque chose qui n'allait pas. Alors, vous voyez que le droit naturel repose sur la conception que j'ai de la nature humaine. Et la conception de la nature humaine implique une conception de l'homme et de la personne humaine. Et donc, d'une morale personnelle. Vous voyez que la famille, à ce point de vue-là, ne peut se justifier comme communauté naturelle que grâce à une éthique personnelle. S'il n'y a pas d'éthique personnelle, je ne peux pas. Donc, si je suis platonicien ou néo-platonicien, je ne peux pas justifier que la famille est de droit naturel. C'est très important, ça, je crois, à bien saisir. Je la justifierai uniquement au niveau des conventions, ou au niveau religieux. Au niveau religieux, ça ne va pas, et au niveau des conventions, ça ne tient pas. Donc, je ne peux pas. Il faudra être de son temps. Vous savez, ça c'est l'impératif le plus fort qui soit. Respecter le progrès et donc considérer que la famille doit éclater. Que c'est bon du Moyen-Âge, ça. C'est déjà un peu comme ça, vous savez. Vous n'avez qu'à entendre ce que vous disent les mères de famille qui ont plus de 3 enfants. Toutes les réflexions qu'elles entendent. Elles ont 4 ou 5 enfants, ou 6 enfants. Mais quel âge êtes-vous? Ça ne se fait plus aujourd'hui. Et non, mais quoi? Vous ne voyez pas ce que vous vous mettez sur les bras? Un côté un enfant, de l'autre, et puis le bras du mari, mais il faut un bras libre. Donc 3, c'est parfait, c'est suffisant, c'est déjà beaucoup. Et puis, grâce à 3, ça peut se maintenir. La mortalité ne dépasse pas. Mais si on avait plus, non. Non, vraiment, c'est très curieux. Vous voyez, on forge une mentalité. C'est ça qu'il faut voir. On forge une mentalité qui brise la famille comme droit naturel. Et on est tout proche de ça. Alors, on doit y réfléchir au point de vue philosophique. On doit essayer de comprendre comment nous pouvons, au plan philosophique, ne pas mettre le petit doigt dans l'engrenage, parce que tout y passera. Et réfléchir comment la famille est de droit naturel. Alors, continuons pour cette réflexion. La famille est de droit naturel. Pourquoi? Parce que l'amour d'amitié est de droit naturel. Au fond, vous pouvez briser la famille lorsque vous avez brisé l'éthique personnelle. Et l'éthique personnelle repose sur l'amour d'amitié. C'est donc l'amour d'amitié qu'il faut farouchement défendre aujourd'hui. Et ce primat de l'amour spirituel. S'il n'y a plus ce primat de l'amour spirituel, vous êtes dans la primauté de l'efficacité. Et vous ne pouvez plus comprendre le droit naturel de la famille. Il y a un danger, on est tout proche du précipice. Et donc on doit le comprendre, et on doit le saisir. Et on comprend que c'est difficile. C'est très très difficile à faire comprendre dans le monde d'aujourd'hui. La famille repose sur un amour d'amitié. L'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Cette amitié est naturelle et cette amitié implique la fécondité. Si je prends cette amitié au sens le plus plénier, elle implique donc la fécondité. Et donc la famille repose sur une éthique personnelle. La famille n'est pas le lieu premier de l'éthique. Ça aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas tomber, vous voyez, dans famille, patrie, Dieu. Parce que c'est faux. Il y a l'éthique personnelle qui est antérieure. Et cette éthique personnelle qui est antérieure, donne le fondement de la famille. Et c'est là où je peux découvrir le droit naturel. C'est dans la personne humaine. Et la personne humaine ne peut se comprendre qu'avec une âme spirituelle. Ce qui fait la personne, c'est l'âme spirituelle. Si donc je supprime le point de vue de l'âme spirituelle, je supprime le point de vue de la personne, et supprimant la personne, c'est l'efficacité qui l'emporte. Je crois que ça, il faut le saisir avec beaucoup de netteté. Bon. Je dis, par le fait même, que la famille est de droit naturel. Qu'elle est la première communauté qui n'exclut pas les autres communautés, mais elle est la première communauté. Et la communauté principale sur laquelle se fonde le point de vue politique. Je dis bien, elle n'exclut pas d'autres communautés. Et elle ne peut pas les exclure, puisqu'elle est fondée sur la personne. Puisqu'elle est dépassée par l'amour d'amitié personnelle. Vous voyez, si la famille était première d'une façon absolue, elle exclurait toutes les autres communautés. Mais puisque avant la famille, il y a l'éthique personnelle, il y a cet amour d'amitié qui unit l'époux et l'épouse, je peux dire que l'éthique personnelle va sauvegarder d'autres types d'amitié. Alors là, il y a des quantités de problèmes qui vont surgir. Je ne les traite pas. Savoir si on peut avoir une communauté uniquement d'hommes dans l'homophilie, une communauté uniquement de femmes. Vous voyez, tout problème de l'homosexualité se situe à ce moment-là. C'est important d'y réfléchir philosophiquement, pas moralement d'abord, mais philosophiquement. C'est très important de bien saisir que la famille, en raison de la fécondité, est la communauté première, politiquement parlant. Mais que la famille ne se justifie comme communauté naturelle que grâce à l'amour d'amitié personnelle. Je crois que ça, vous le saisissez suffisamment, ne faites pas de confusion. Très important d'être pour une politique familiale, mais il ne faut pas que la politique familiale supprime l'éthique personnelle. Et le jour où la politique familiale supprime l'éthique personnelle, à ce moment-là, la famille se tue elle-même. On ne peut plus justifier. Parce que la famille repose sur l'aspect de l'éthique personnelle. Nous voyons donc qu'au niveau communautaire, la famille a quelque chose de fondamental. Ce n'est pas exclusif. Il peut y avoir d'autres communautés. Mais la famille a un privilège. C'est que, de fait, même si la fécondité n'est pas le but premier de l'amour d'amitié, la fécondité ne peut pas être exclue de cet amour d'amitié de l'homme et de la femme dans la famille. Alors c'est là où il faut essayer de comprendre, au plan philosophique, le passage de l'amour d'amitié à la famille et à l'institution de la famille. Il faut bien voir qu'au point de vue moral, l'amour d'amitié sauve l'éthique personnelle. Ça, nous pouvons tous le comprendre. Moi, j'espère, si vous avez compris un tout petit peu ce que c'était que l'éthique, vous comprenez que l'éthique repose sur cet amour d'amitié. Tout se tient, vous voyez. C'est ça qui est intéressant, du reste, au plan philosophique. De voir que c'est vraiment cette expérience de l'amour d'amitié qui est première et qui me permet de comprendre ce que c'est que l'éthique personnelle. Cette éthique personnelle est donc première sur laquelle va s'étendre la famille. Et la famille va impliquer la possibilité de la fécondité. Va impliquer cette responsabilité de la fécondité. Une responsabilité qui ne peut être assumée que dans l'amour. Et c'est à partir de l'enfant que nous voyons l'institution familiale. Je crois qu'il faut distinguer très nettement ces deux aspects. L'aspect éthique de la famille et l'aspect institutionnel de la famille. Vous voyez, parce que nous sommes en présence aujourd'hui, il faut bien se le dire, de ce phénomène de jeunes qui veulent vivre ensemble, au-delà de tout aspect institutionnel. L'aspect institutionnel les agace prodigieusement, en disant qu'il s'agit d'une chose personnelle et l'institution n'a rien de voir. Aussi bien l'institution religieuse que l'institution civique. Vivons ensemble, puisqu'on s'aime. Personne n'a rien à nous dire, puisque nous nous aimons. Et que l'amour d'amitié est au-delà du point de vue politique et au-delà du point de vue religieux. C'est un fait. On est en présence de cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au plan philosophique? Après, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut dire pour aider ceux qui sont pris par cela? Ils sont nombreux aujourd'hui. Et si ça continue, ça va se propager encore plus. Alors, je crois qu'il faut bien distinguer l'aspect amour d'amitié et l'aspect institution de la famille. On ne l'a peut-être pas assez distingué. Et l'aspect contrat, il y a trois choses. L'amour d'amitié, l'institution de la famille et le contrat. Un contrat de mariage. Parlez du contrat de mariage à des jeunes qui s'aiment. Ils vous riront au nez en disant l'amour est au-delà de toute espèce de contrat. Et c'est vrai. C'est vrai que l'amour est au-delà de tout contrat. Et c'est vrai que l'amour est au-delà de toute institution. Il faut reconnaître ce qu'il y a de vrai. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas bloquer la famille et l'institution familiale. Il faut comprendre la signification des deux. La famille repose sur l'amour d'amitié personnelle de l'époux et de l'épouse, de l'homme et de la femme. L'institution apparaît avec la procréation, avec la fécondité, avec l'enfant. C'est très curieux, ça. Et c'est à ce moment l'institution de l'État, puis ensuite l'institution de l'Église. Pourquoi ça apparaît avec l'enfant? Ça apparaît avec l'enfant parce que justement, Il s'agit de constituer à ce moment-là une communauté parfaite. Il y a un troisième qui, étant donné sa fragilité, doit être défendu. Pas seulement par l'amour, mais défendu par rapport à l'ensemble. Étant donné sa fragilité. Et ça, c'est l'institution du mariage au niveau politique. L'institution du mariage au niveau politique n'est pas pour défendre l'amour des conjoints, ils sont adultes. Pas besoin. C'est par rapport à l'enfant. Et le contrat de mariage viendra pour défendre la liberté à l'intérieur de l'amour. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.